Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi avant tout qui nous fais l'honneur de ta présence. Merci parce que tu es là dans nos cœurs, tu es là dans cette salle. Merci pour ta parole, la Bible. À travers elle, tu nous parles, tu nous conseilles, tu nous enseignes, tu nous montres le chemin. Seigneur, tu nous connais dans notre faiblesse. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons te suivre, mais souvent nous trébuchons. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous accompagnes. Bénis ce moment, Seigneur. Que ta parole soit annoncée avec fidélité, avec clarté, qu'elle trouve un écho dans notre cœur et que nous puissions la vivre dans la puissance de ton esprit pour la plus grande gloire de Jésus, en ton nom. Amen. Bon, le titre du message de ce matin est « Connaître Dieu personnellement ». Ah, ça c'est un gros titre, « Connaître Dieu ». Alors on va aborder peut-être quelques sous-questions dont on aura l'occasion de discuter pendant le message, des questions telles que « Qu'est-ce que connaître Dieu ?» Bah oui, c'est quoi connaître Dieu ? Comment le connaître, si on peut le connaître, et comment mieux le connaître? Parce que nous qui sommes chrétiens, on dit oui, on connaît Dieu, mais ça ne doit pas s'arrêter là. C'est une relation. Donc, je peux apprendre encore à mieux le connaître, à avancer avec lui. Alors, je vous inviterai à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, et nous lirons juste un verset. L'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. C'est fantastique, j'ai même un écran. Merci, Jacob. Donc, Jean 17... Je vous invite quand même à ouvrir votre Bible. S'il y a une panne de courant, ça fonctionne toujours. Donc, Jean 17, verset 3. Le temps que vous trouviez le verset, même s'il est déjà affiché, peut-être quelques commentaires sur le chapitre 17. Tout le chapitre 17, en fait, est une prière. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est la dernière prière que Jésus va faire avant d'être arrêté. Donc, au moment où Jésus va prier, il sait que dans quelques heures, il sera arrêté, il sera torturé et il sera crucifié. Et ce qui est frappant dans cette prière, c'est qu'il l'a fait à l'attention de ses disciples, des 12, ou plutôt des 11, parce que Judas n'était plus là. Il prie pour eux, parce que Jésus sait qu'il va être enlevé du monde, mais ses disciples, ils vont rester dans le monde. Et Jésus sait que ça va être difficile pour eux. Alors Jésus va même aller encore plus loin dans sa prière, au verset 20, il va dire « Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront après eux ». Donc 2000 ans plus tard, cette prière, elle est toujours valable pour nous. Jésus prie pour nous aussi, dans ces textes-là. Et ce qui m'interpelle, ce qui retient mon attention pour ce matin, c'est juste le verset 3, une simple parole de Jésus, mais qui est très lourde de sens. Voilà ce que Jésus dit. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Simple affirmation, simple verset. Mais beaucoup de sens. De cette affirmation de Jésus, ce matin, on tirera trois idées clés. Première idée, connaître Dieu personnellement, ce n'est possible que par Jésus-Christ. J'aime bien comme Jésus le dit ici, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Jésus aurait pu dire, la vie éternelle, c'est qu'ils obtiennent le pardon des péchés, ce qui est tout à fait correct. Mais Jésus n'a pas choisi de dire ça. Il a choisi de dire, c'est qu'il te connaisse. Connaître quelqu'un, c'est tout sauf une formalité. Connaître quelqu'un, c'est pas un acte administratif ou un acte judiciaire qui a été accompli vaguement par quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas comme aller à la commune où il y a un monsieur qui met un tampon sur notre papier et voilà, l'affaire est réglée. Non. Quand je dis que je connais quelqu'un, j'ai une relation avec lui. Je connais un peu son histoire. Il y a une expérience qui est commune. Dans cette idée de connaître Dieu, dans cette idée de faire connaissance avec lui, eh bien, Jésus précisera son rôle dans tout ça. C'est ce qu'il dit un petit peu plus loin au verset 6, dans sa prière, Jésus dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Alors je sais qu'il y a certaines versions de la Bible qui rendent ça plus littéral, plus proche du texte grec, et j'aime bien comme ça donne. Ça donne « J'ai révélé ton nom aux hommes ». Alors ça veut dire quoi « J'ai révélé ton nom aux hommes » Alors pour nous qui sommes occidentaux, ça ne nous parle pas tellement, mais dans la culture juive, quand on disait « je révèle le nom de quelqu'un », ça veut dire « je révèle son identité », « je révèle son cœur », « je révèle ce qu'il ressent », « je révèle ses intentions », « qui il est profondément ». Jésus révèle le nom de Dieu, il nous révèle Dieu en profondeur. Il y a un petit peu cette idée que Dieu n'avait pas toujours été accessible, et c'est vrai. Pour ceux qui lisent leur Bible, quand on regarde l'Ancien Testament, quand on regarde tout ce qu'il fallait faire pour approcher Dieu, 36 000 sacrifices toujours à répéter, il y avait le lieu saint, le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait entrer dans la présence de Dieu une fois par an, c'était le grand prêtre. Donc l'idée que Dieu n'était pas toujours accessible, mais qu'en Jésus, Dieu est accessible. je t'ai fait connaître, j'ai révélé ton nom. Il y a une part de mystère qui se dégage, il y a quelque chose qui se dévoile ici. Bon, c'est vrai qu'à première vue, on peut vite avoir l'impression que Jésus, c'est juste un agent extérieur au service de Dieu, quelqu'un qui révèle Dieu, hein, comme quelqu'un qui ouvre la porte, qui lève les stores. Mais la Bible va beaucoup plus loin que ça. Elle montre explicitement que Jésus, ce n'est pas qu'un envoyé. Jésus, ce n'est pas qu'un messager. Jésus, ce n'est pas qu'un prophète. Ce n'est pas que quelqu'un qui a dit des choses sur Dieu. Quand on est dans une bibliothèque, il y a plein de livres. Il y a plein de gens qui ont écrit des choses sur Dieu, des choses qui sont très fausses, des choses qui sont très exactes. Mais Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui s'est contenté de dire des choses sur Dieu. La Bible, elle montre sans aucun détour que Jésus, c'est Dieu en personne qui se révèle aux hommes. Et ça doit être parfaitement clair, surtout si on est chrétien. Jésus, c'est Dieu qui se révèle aux hommes. Ça, c'est du jamais vu auparavant. Dans l'Ancien Testament, quand on regarde comment Dieu fonctionnait, il se contentait d'envoyer des prophètes, il se contentait d'envoyer de temps en temps un ange, de faire quelques miracles. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui descend. Ce que j'aime dans le message de l'Évangile, c'est que ce n'est pas nous qui allons vers Dieu. Ça, c'est de la religion. Hein. Toutes les religions, c'est un petit peu comme des échelles qu'on lève vers le ciel pour atteindre Dieu. Mais l'Évangile, c'est Dieu qui vient à l'homme, dans son péché, dans sa totale incapacité. Dieu qui s'approche de l'être humain. C'est le mystère de Noël. Je ne vais pas parler de Noël, je pense que je laisserai ça à Gaston pour la fin de l'année. Peut-être juste quelques paroles, des quelques prophéties ou quelques paroles qu'on lit concernant Jésus-Christ à sa naissance. En Ésaïe 9,5, on dit de l'enfant Jésus, Dieu puissant, Père éternel. Extraordinaire, des titres de Dieu qu'on applique à un enfant. Quand l'ange apparaît à Marie, elle lui dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Donc déjà la Noël, l'enfant qui naît, on voit qu'il y a quelque chose de particulier. C'est Dieu. Dieu qui nous visite. Jésus-Christ est Dieu. Ça coule de source pour nous qui sommes chrétiens. Mais quand on lit un petit peu comment étaient les disciples dans l'évangile de Jean, on voit que ce n'était pas toujours clair pour eux. Il y a un épisode qui est assez amusant comme ça, c'est dans Jean au chapitre 14. Voilà ce que Jésus leur dit aux disciples, des versets qu'on connaît. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, si vous voulez venir à Dieu, vous passez par moi. Et Jésus va même plus loin. Il va dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Donc Jésus dit, vous voulez connaître Dieu, vous passez par moi. Et il en rajoute une couche. Il dit, mais ce n'est pas un problème pour vous, vous connaissez déjà Dieu. Imaginez un petit peu les disciples, ce qu'ils ont dû ressentir. Ils ont dû se regarder en disant, on connaît déjà Dieu. C'est ce qu'il raconte Jésus. C'est Philippe qui va se mouiller et il va dire à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, donc montre-nous Dieu. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et ce que Jésus va répondre est fort. Jésus va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui a vu le Père, enfin, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, autrement dit, celui qui m'a vu, a vu Dieu. Si Jésus est si indispensable dans la Bible, c'est tout simplement parce que c'est Dieu en personne. On pourrait dire en quelque sorte que Jésus est comparable à un roi, un roi qui se déguise en homme du peuple pour visiter ses sujets, pour s'enquérir de leur situation. Et il voit que ses sujets vivent dans le péché. Et lui, il vient apporter une solution, il vient donner sa vie à la croix. Ainsi, Jésus n'est pas une révélation de Dieu parmi d'autres révélations qui se valent, ce qu'on entend à gauche et à droite. Ça arrange bien de prendre des croyances différentes et de dire, finalement, c'est la même chose. Non, Jésus n'est pas une révélation parmi d'autres révélations. Jésus est la révélation. Parce qu'il n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. C'est une donnée qui est à prendre, une donnée qui est à laisser. Voilà pourquoi, d'autre part, la Bible parle de Jésus aussi comme le Fils de Dieu. Ça peut parfois être perturbant. Jésus, le Fils de Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, on dit, c'est qu'il y a un papa, c'est qu'il y a une maman. Mais la Bible, elle n'utilise pas le terme Fils de Dieu dans ce sens-là. C'est un titre divin. Ça désigne une des personnes de la Trinité par laquelle Dieu se révèle dans la Bible. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand je dis de Jésus que c'est le Fils de Dieu, c'est une façon de dire qu'il émane de Dieu. Par exemple, moi je suis le Fils de mon Père, logique, c'est-à-dire que je partage ses caractéristiques, je viens de lui. Si je dis que je suis fils de la Belgique, ça ne veut pas dire que mon pays a eu des relations sexuelles et que je suis né. Mais c'est une façon de dire que je partage les caractéristiques d'un Belge, j'appartiens à ce pays. Quand je dis que Jésus est le Fils de Dieu, je veux dire qu'il émane de Dieu, il partage sa divinité, il est Dieu. Voilà pourquoi aussi d'autre part, Jésus se présente comme Dieu en personne. Il dira à ses disciples qu'il n'a vu le Père, mais il ne le dira pas en privé à ses disciples. Il le dira devant les responsables religieux de l'époque. En Jean 10, 30, Jésus dira, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ils vont ramasser des pierres pour lapider Jésus. Jésus ira même plus loin. Il va poser des actes que seul Dieu peut poser. Jésus opère des miracles. Si vous lisez tout l'évangile de Jean, à la fin de l'évangile, Jean écrit que Jésus a tellement fait de miracles que si on écrivait tout ce qu'il avait fait, les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir les livres qu'on écrirait. Alors Jésus, enfin, Jean ici fait une hyperbole, il exagère. C'est une façon de dire que Jésus a fait beaucoup plus que ce qui est rapporté dans la Bible. Jean chapitre 11, verset 25. Cet épisode-là aussi est surprenant. Il y a un décès, Lazare, Jésus le ressuscite. Et ce n'est pas en privé qu'il le fait, c'est en public qu'il le fait. Et Jésus dira, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc celui qui croit en moi, qui me fait confiance, aura la vie éternelle, il vivra même s'il meurt. Jésus se permet d'accorder le pardon des péchés. Ça c'est innovant dans la Bible. Personne dans la Bible n'ose pardonner les péchés. Pas même les apôtres, pas même les anges, pas même les prophètes. Or, on amène un paralytique à Jésus. C'est l'histoire qu'on voit à l'école du dimanche, hein, les quatre amis qui trouvent le toit et qui descendent le paralytique. Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et puis seulement après, il lui dit, lève-toi, prends ta civière et marche. Jésus commande à la nature. Marc 4, 39. Les disciples sont dans une barque, il y a une tempête, ils crient à la mort. Jésus se lève et dit à la tempête, tu te calmes. Ses disciples vont se retourner en disant, mais qui est cet homme ? Cet homme, c'est Dieu, simplement. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a fabriqué, qui a inventé la nature, c'est normal qu'il la commande. Les démons et les mauvais esprits se soumettent à lui, en le reconnaissant pour qui il est. Marc 5, Jésus se trouve devant un homme qui est possédé par une légion de démons, et il dit, fiche-nous la paix, on sait qui tu es. Les démons voient tout de suite ce qu'il fait. Jésus se fait l'interprète de la loi, tout le sermon sur la montagne. Il a une pleine autorité dans son enseignement, au point que les foules étaient bouleversées. Parce que Jésus ne se contente pas de parler de banalité, il parle du cœur humain. Il parle de nos problèmes de tous les jours. Il parle du fond de notre problème, justement. Il y a un épisode comme ça où Jésus enseigne dans le temple à Jérusalem. Les gardes sont pas, enfin, les responsables religieux ne sont pas contents. Ils vont envoyer des gardes contre Jésus. Alors les gardes, ils vont, ils imaginent avec leurs boucliers et leurs lances. Ils vont trouver Jésus, ils l'écoutent et ils reviennent bredouilles. Alors forcément, les responsables religieux les engueulent. Et ce que disent les gardes, c'est fort. Jamais personne n'a parlé comme lui auparavant. Il y a quelque chose qui se dégage de Jésus. Jésus accepte aussi de recevoir l'adoration. Il guérit un aveugle, l'aveugle se prosterne devant lui. Jésus ressuscité apparaît devant ses disciples. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pourtant, lorsqu'il était tenté dans le désert, Jésus dit, tu n'adoreras personne d'autre que ton Dieu, celui seul que tu serviras. Donc, à moins d'admettre que Jésus se contredise, qu'il blasphème, il est Dieu. C'est ce que montre la Bible. Voilà pourquoi, dans sa prière ici, que nous avons lu juste verset 3, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, mais il ne s'arrête pas là. Jésus dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu est étroitement lié à Jésus. C'est impossible de connaître Dieu sans connaître Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie. Parce qu'il est le moyen, parce qu'il est le chemin par lequel Dieu se fait connaître. Ainsi, chercher Dieu, ça passe par Jésus-Christ. Si on n'est pas croyant, ou si on en recherche, si on se pose des questions, comment est Dieu? Quelles sont les intentions de Dieu? Comment se fait-il connaître? Regardez à Jésus. La Bible montre, il y a des réponses dans la Bible. Si on est chrétien et qu'on se pose des questions, comment rester attaché à Dieu? Comment lui être fidèle? Bah, de nouveau, regarde à Jésus simplement. Reste attaché à lui, reste attaché à son enseignement. Connaître Dieu, ça ne passe que par Jésus-Christ. Deuxième idée. Connaître Dieu, c'est une rencontre. C'est une relation, et j'insiste, c'est une relation. J'ai apprécié tantôt que Gaston dise à la Sainte Seine que nous ne savons pas que des choses sur Dieu, on vit quelque chose. Connaître Dieu, c'est une rencontre, c'est une relation. Ce n'est pas uniquement de la sphère, de la connaissance et du savoir. Une relation qui est même indispensable. Alors connaître Dieu, c'est certainement la question la plus importante dans la vie de chaque être humain. Parce que de l'importance qu'on va accorder à cette question dépendra tout le reste. Notre vie ici sur terre, et également notre vie dans l'éternité après la mort. Quelle importance j'accorde à cette question. Malheureusement, quand on regarde comment notre société fonctionne, c'est souvent une question qui est esquivée. On préfère esquiver les questions gênantes, surtout quand Dieu parle du péché. Dans notre société, on s'arrête surtout à la réalité matérielle. Ce que je peux voir, ce que je peux entendre, ce que je peux sentir, ce que je peux toucher, ce que je peux goûter. Et on a souvent tendance à affirmer qu'en dehors du matériel, il n'y a rien. pense que tout le monde a déjà entendu autour de soi quelqu'un qui disait « Je ne crois qu'en ce que je vois. Je ne crois qu'en ce qui est matériel, ce qui est vérifiable de façon empirique, par les sens en quelque sorte. » Certes, que penser des sentiments, que penser des émotions, que penser de la volonté, que penser de l'intelligence, que penser de la conscience morale qu'il y a dans chaque être humain, que penser de la conscience éternelle et du divin qu'il y a également dans chaque être humain, que penser de l'ordre mystérieux qui existe dans la nature et dont parle le livre des psaumes. La science dit que les choses vivent elles-mêmes tendent au chaos. Pourquoi y a-t-il de l'ordre dans l'univers? Qui a instauré cet ordre? Et s'il y a de l'ordre, vers quoi ça tend? Si Dieu n'existe pas, alors pourquoi la création contient-elle autant de traces d'une intelligence supérieure, d'un créateur? De temps en temps, je regarde Ushuaïa TV ou le National Geographic, fabuleuses émissions qu'il y a là-dedans. C'est vraiment beau. Par contre, les commentateurs, ce qu'ils racontent, c'est pas toujours très brillant. Ils démontent en disant qu'il y a des gens imbéciles qui croient en un Dieu créateur. Et juste après, ils disent « Mère Nature fait du beau travail ». Je suis stupéfait quand j'entends ça. Je dis, parler de Mère Nature, n'est-ce pas un aveu d'échec? N'est-ce pas dire « Il y a quelque chose qui est derrière, mais je refuse de croire que c'est Dieu ». Blaise Pascal, un grand homme du XVIIe siècle, je pense qu'il est très connu surtout dans les écoles et dans les universités. Blaise Pascal, c'est un physicien, un mathématicien, un philosophe, un théologien, un libre penseur, un inventeur. Si vous étudiez la science, en particulier l'université, vous passerez par Blaise Pascal, par ses théories, par ses formules incompréhensibles. Mais ce qu'on ne dit pas à l'université, et ce qu'on ne dit pas dans les écoles, c'est que Blaise Pascal, c'est aussi un chrétien. C'était un chrétien convaincu qui croyait que la Bible est la parole de Dieu, un évangélique, on pourrait dire aujourd'hui. Et Blaise Pascal, il a écrit des livres de science, il a aussi écrit des livres de théologie, il a écrit des choses sur Dieu. Et dans un de ses ouvrages, qu'il a écrit à l'attention de ses amis non-croyants, Blaise Pascal a écrit ceci. J'aime bien comme il le dit, bon, il le dit rondement, il le dit vachement, je vais même dire, mais c'est pas mal parce que ça fait réfléchir. Juste une citation, il a écrit « Moi, je préfère croire en Dieu, parce que s'il existe, j'ai tout à gagner, alors que s'il n'existe pas, j'ai rien à perdre. » C'est dit rondement, mais ça mérite de soulever une chose. Le simple bon sens est pour Dieu. Le simple bon sens est pour Dieu. C'est avec raison que le psaume 10:4 dit ceci. Dans son orgueil, le méchant dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, il n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin, c'est là même le fond de sa pensée. C'est sévère, mais tout est dit. C'est quoi connaître Dieu? Eh bien, nous avons vu d'une part que cela passe par Jésus-Christ. D'autre part, la Bible montre aussi que connaître Dieu n'est jamais envisagé comme un quelconque savoir intellectuel. Et là, il y a une très grande dérive. Connaître Dieu, ce n'est pas du savoir intellectuel. Ce n'est pas connaître les choses concernant Dieu. Alors, je vais vous épater ce matin. Moi, je connais Philippe Ier de Belgique. Je sais que c'est le fils d'Albert II. Il vit quelque part à Bruxelles. Il a un grand jardin à La Conne. Mais pour être honnête, je ne mange pas à sa table. Je n'ai jamais eu de conversation avec lui. Je n'ai même jamais serré la main. Mais je connais des choses sur lui. Ben, du temps de Jésus, il y avait aussi des spécialistes des Écritures. Il y avait de très grands érudits, de très grands théologiens qui savaient beaucoup de choses sur Dieu, mais qui ne connaissaient pas Dieu. C'était le cas des pharisiens, des esséniens, des sadducéens, des scribes, de tous ces groupes qui vont s'approcher de Jésus à chaque fois. Ils parlaient de Dieu, mais ils ne vivaient rien avec Dieu. Le plus bel exemple dans la Bible, je dis que ça c'est un bel exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était instruit au pied de Gamaliel, qui était un grand maître, un grand savant, un grand théologien à l'époque, qui pourtant au sommet de sa connaissance a persécuté l'Église, a massacré des chrétiens, a emprisonné des frères et des sœurs en Christ. Et c'est au moment où il va venir à Jésus-Christ que toute sa connaissance va être en quelque sorte illuminée, qui va comprendre toutes ces choses. Ça c'est un drame que la Bible montre. Il est possible de savoir des tonnes de choses sur Dieu, sans jamais le connaître, sans jamais avoir la vie éternelle, comme le précise Jésus. Croire donc que la vie chrétienne consiste à emmagasiner de la connaissance, c'est une fausse idée. C'est même une idée qui est extrêmement dangereuse, parce que ça veut dire que les chrétiens qui ont plus de capacités intellectuelles sont plus spirituels, et que ceux qui ont moins de capacités intellectuelles sont moins spirituels. Alors que Dieu dit justement qu'il se sert des choses folles et faibles du monde pour confondre les forces. Donc la vie chrétienne ne se réduit pas à emmagasiner de la connaissance intellectuelle. Il est possible de fréquenter une église, et même tout plein d'églises, pendant des mois et des années. Il est possible d'assister à toutes sortes de réunions chrétiennes, toutes sortes de séminaires, possible de lire tout plein de livres chrétiens, possible même d'avoir lu plusieurs fois sa Bible, possible d'avoir fait l'Institut biblique belge sans jamais avoir rencontré Dieu, sans rien vivre avec lui, sans qu'il y ait eu un changement dans le cœur. Dans les évangiles, nous voyons très ironiquement que c'était souvent les personnes les plus proches de Jésus qui étaient les plus lentes à croire. Jésus, parfois, entretient des paroles qui sont très sévères et il dira un moment « homme de peu de foi », mais à qui il le dit ? À ses disciples. Les spécialistes religieux, plus grands érudits qui avaient la parole de Dieu, ils étaient proches de Jésus. Ils ont pu discuter avec Jésus, ils ont pu contester avec Jésus, mais ils n'ont pas connu. La foule, ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont été des milliers à crier « Hosanna, fils de David » quand Jésus est entré à Jérusalem. Quelques jours après, ils étaient des milliers à crier « Crucifie-le, descends de ta croix ». Et inversement, ce sont les personnes les plus éloignées qui croyaient tout de suite. Jésus dira à un officier romain, je n'ai jamais vu une foi pareille. Jésus accordera sa grâce à une femme syrophénicienne. Connaître quelqu'un dans la Bible, c'est toujours envisagé aussi comme une rencontre intime et personnelle. Ça, c'est peut-être une grande différence entre la culture de la Bible et notre culture occidentale. Pour nous, les Occidentaux, connaître, c'est dans la sphère de l'intellect. Dans la Bible, quand on parle de connaître, c'est une connaissance du cœur, une connaissance qui est intime, une connaissance qui est personnelle. D'ailleurs, dans la Bible, quand on dit que deux personnes ont eu des relations sexuelles, la Bible utilise le terme connaître. On dit qu'elles se sont connues. Donc, il y a un petit peu cette idée-là avec Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir une relation sexuelle avec Dieu, hein, comme ça, c'est à dire, ce que je n'ai pas dit ce matin, s'il vous plaît, mais une rencontre intime et personnelle. Et quand on rencontre Dieu de cette façon, la vie tout entière bascule. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pas une invention des évangéliques. La nouvelle naissance, c'est ce que Jésus dit en Jean 3. On apprend que pendant la nuit, il y a Nicodème, le plus grand théologien d'Israël, hein, préférait voir Jésus pendant la nuit parce que pendant le jour, il faudrait surtout pas qu'on voie qu'il donne du crédit à Jésus. Il va trouver Jésus pour poser des questions. Et malgré toute la science de cet homme-là, Jésus dira, tu dois naître de nouveau. Il doit se passer quelque chose dans ton cœur. De Corinthiens 5, 17 le dit aussi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La transformation, elle ne s'opère pas dans la tête. La transformation, elle s'opère dans le cœur. D'ailleurs, nous connaissons tous au moins une personne qui a changé notre vie, qui a eu un impact dans notre vie, soit positif, soit négatif. Ben, c'est exactement la même chose avec Dieu. À tous ceux qui croient en lui, Dieu donne la vie éternelle. Mais à tous ceux qui refusent de le connaître, c'est la condamnation éternelle à cause de leur péché. Ben, c'est vrai qu'on nous pourrions dire un Dieu d'amour qui punit, c'est méchant, mais la Bible montre que c'est tout à fait logique. Si Dieu offre la vie éternelle et que je n'en veux pas, qu'est-ce qui me reste ? La mort éternelle. Si Jésus offre la justification et que je n'en veux pas, qu'est-ce qui reste ? La condamnation. Si j'ai 0 € dans mon portefeuille et que ma banque dit, Monsieur Duchesne, on va vous donner 50 000 € et que je n'en veux pas, qu'est-ce qui reste dans mon portefeuille ? 0 €. Connaître Dieu, c'est se savoir aimé par Dieu. Effectivement, comme on l'a célébré à la Sainte Seine, c'est lui qui donne sa vie. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu nous aime à ce point-là, on a de la valeur à ce point-là. Même quand on a une sale image ou quand on est étouffé par la culpabilité, mais Dieu dit, je t'aime, à quel point de donner ma vie. Jésus est venu pour servir, il ne nous prend pas pour des esclaves ou pour des larbins. Jésus nous élève, il nous appelle ses frères. Connaître Dieu, c'est se savoir aimer par lui et c'est l'aimer en retour. Il y a ça dans une relation. J'aime et je me sais aimer aussi en retour. Connaître Dieu, c'est un cœur à cœur. C'est accepter de vivre chaque jour avec lui et c'est construire une relation avec lui. J'aime bien insister sur construire une relation avec lui. C'est comme on construit une maison, une pierre, une planche. Il y a quelque chose qui commence, un cheminement en quelque sorte. C'est ce qu'on voit aussi dans la vie de Zachée. J'aime bien l'histoire de Zachée, c'est étonnant. On apprend d'un côté en Luc 19 que c'est un voleur, il collabore avec l'occupant romain, il se fait de l'argent sur le dos de ses compatriotes. Puis Jésus le voit et dit « il faut que je demeure chez toi ». Alors Jésus ne voulait pas dire « il faut que j'aille manger un petit repas et puis que je m'en aille ». Jésus dit « il faut que je demeure chez toi, dans ton cœur ». La Bible ne dit pas ce qui s'est passé dans le cœur de Zachée. Il n'est pas écrit que Zachée acceptait Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qu'il naît de nouveau. Les versets suivants, c'est juste que Zachée dit « je vais rendre l'argent que j'ai volé, même le quadruple de ce que j'ai volé, je donne la moitié de ma vie en pauvre. » La Bible montre qu'il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il y a un silence de la Bible, mais inévitablement on sait qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie ici. Voilà pourquoi Hébreux 3, 7 dit aussi « si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Pourquoi? Ben parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, si on sera toujours là. Moi, je ne sais pas si je vais en sortir en l'église, si on fait une voiture qui m'écrasera, enfin, je ne sais pas. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand Dieu parle, quand Dieu interpelle, autant répondre avant qu'il soit trop tard. Connaître Dieu, c'est une relation qui commence lorsque nous choisissons de renoncer à faire ce que Dieu déteste. C'est logique. Si je veux m'entendre avec quelqu'un, je dois apprendre à le respecter. Si je veux m'entendre avec votre pasteur Gaston, je dois le respecter. Si je ne dois pas lui envoyer des briques dessus, par exemple, je dois comprendre que ce n'est pas correct. C'est la même chose avec Dieu. Je dois apprendre à le respecter. Et la Bible montre que Dieu ne tolère pas le mal. Dieu ne tolère pas le péché. C'est lorsque nous nous demandons pardon pour nos fautes, c'est lorsque nous mettons notre confiance en lui, en ce qu'il a fait à la croix, comme on l'a parlé à la Sainte Cène, comme on a vu, que nous le connaissons dans le sens biblique du terme. Et ça, c'est autre chose que savoir des choses sur Dieu. Je peux savoir des choses sur Dieu sans vivre avec lui. Ainsi, Jésus, dans sa prière, exhorte ses disciples à comprendre que la vie chrétienne n'est pas une question de savoir, mais c'est avant tout une question de relation avec Dieu. Dieu devient le cohabitant de ma vie, même le propriétaire. Je vis avec lui, je vis pour lui. Je lui donne ma vie tout comme il a donné sa vie pour moi. C'est ça la conversion, c'est ça le début de la vie chrétienne. Je laisse Dieu vivre en moi, parce qu'il a promis de faire sa demeure dans mon cœur, pour moi, parce que c'est lui qui donne sa vie à la croix pour moi, avec moi, parce que Dieu a dit « je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Cette nouvelle vie, je la vis par lui, peut-être que je n'ai pas la force, mais Dieu donne mes forces, avec lui et pour lui. La question qui se pose, si on est chrétien, c'est « quelle place Dieu a-t-il dans mon cœur ?» Souvent, nous les chrétiens, nous voyons notre vie un peu comme un camembert. Je ne veux pas dire que notre vie est un fromage. Hein. Plutôt comme un camembert avec plusieurs sections. Et on dit, cette partie-là, c'est pour Dieu, cette partie-là, c'est pour l'Église, et cette partie-là, c'est pour moi et pour mes loisirs. Mais Dieu réclame toute notre vie entière. Parce que dans chaque domaine de notre vie, il veut nous rendre heureux et il veut nous faire du bien. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Et pas simplement un morceau de ma vie. Connaître Dieu personnellement passe par Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est une relation, c'est une rencontre. Et je terminerai avec cette troisième idée, dernière idée. Connaître Dieu, c'est aussi le programme de la vie chrétienne. Comme nous l'avons vu précédemment, le début de la vie chrétienne, c'est le début de la vie éternelle, de faire connaissance avec Dieu et faire vie commune avec lui. Alors nous pourrions dire qu'un chrétien, c'est en quelque sorte quelqu'un qui commence franchement, et j'insiste sur franchement, à bien organiser sa vie sur terre. Et c'est surtout quelqu'un qui se décide à bien préparer l'éternité avec son Dieu. Ou soyons honnêtes, quelqu'un qui est censé bien organiser sa vie. Quelqu'un qui est censé bien préparer l'éternité. Parce que ce n'est pas toujours ce qui se passe. Au final, comme la Bible nous le dit, nous passerons maximum 70, 80, 90 ans, peut-être 120 ans pour les plus robustes sur Terre. Et quand on considère ce que c'est l'éternité, ben, toutes ces années, c'est rien du tout. Imaginez un peu l'éternité, ça n'a pas de commencement là, vers le futur, ça n'a pas de commencement vers le passé. Notre vie, c'est juste une toute petite étincelle, juste une petite lumière. Mais quel genre de lumière on va dégager? Un éclat pour le Seigneur Jésus ou un petit pétard mouillé pour des choses qui n'en valent pas la peine? Aux yeux de Dieu, notre vie, aussi courte soit-elle, est la seule occasion que nous avons pour bien préparer l'éternité, pour choisir où on va aller et pour choisir aussi comment on va y aller, d'où sa valeur. D'ailleurs, c'est toujours marrant de le rappeler à des chrétiens qui se disputent, de leur dire « vous allez passer l'éternité ensemble ». Pierre d'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit d'ailleurs bien, il écrit ceci « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage ». La vie est courte, mais elle est précieuse. Elle sert à préparer l'éternité. Dans ce cadre-là, un chrétien est quelqu'un qui connaît Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se prendre le gros coup et se sentir supérieur. Parce que ce que nous savons de Dieu est très, très limité et très partiel. 1 Corinthiens 13 nous dit ceci, « Car nous connaissons en partie. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. » Donc les miroirs dans l'Antiquité étaient très flous. « Donc aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. » Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. On connaît Dieu partiellement. Aucun chrétien ou aucun théologien, aussi brillant puisse-t-il être, ne peut dire « je peux expliquer Dieu de A à Z ». Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous révèle. Ça signifie qu'en tant que chrétien, nous connaissons suffisamment Dieu pour être sauvés, Mais notre relation avec Dieu ne doit pas s'arrêter là. Ça, c'est souvent le drame. Je parlais une fois avec un pasteur et il me disait, j'ai un souci, dans mon église, les chrétiens sont enthousiastes et à partir du moment où ils prennent leur baptême, paf, il y a tout qui s'arrête. Il n'y a plus cette soif d'avancer. Un petit peu comme s'ils avaient atteint l'objectif et que ça s'arrêtait là. Mais on doit continuer à chercher à connaître le Seigneur davantage. Si le peu que nous connaissons de Dieu nous donne déjà la vie éternelle, c'est dire que Dieu a encore beaucoup plus en réserve pour nous pour la suite. Quand vous ouvrez votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, tout le chapitre 1, ce n'est qu'une liste des bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Qu'une liste. Dieu a encore plein de choses en réserve pour nous. C'est dire que ça vaut la peine d'essayer d'avancer avec lui et d'apprendre encore à le connaître. Mais dans ce cadre-là, n'oublions pas non plus que nous aimons notre Dieu non pas pour ses dons, mais pour qui il est. Ce n'est pas parce que Dieu va me donner des choses que je vais l'aimer, mais pour qui il est, parce que je sais qu'il m'aime, qu'il m'accepte. Comme nous avons encore beaucoup à apprendre sur Dieu, la vie chrétienne devrait être caractérisée par une recherche toujours plus profonde de Dieu, un désir de mieux le connaître, se dire « j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de vivre quelque chose ». Mais le drame, c'est que beaucoup trop de chrétiens se contentent du statu quo. On connaît Dieu suffisamment au point d'avoir goûté le salut, mais on ne veut pas en savoir plus. Parfois, il arrive que nous tombons dans la paresse spirituelle. On dit Dieu, oui, mais pas plus que ça. En théologie, il y a même un terme technique pour désigner la paresse spirituelle, c'est-à-dire que ça a été étudié. Ça s'appelle l'assédie. Alors concrètement, c'est quoi l'assédie? C'est quand je me lève le matin, après mon petit déjeuner, j'ouvre ma Bible à 10 heures du matin et je suis... Je lirai demain. Ah non, après-demain. Finalement, je ne lis plus ma Bible. Je me relâche. La paresse spirituelle. Pourtant, quand on regarde Jésus... Jésus n'a jamais dit « les disciples, oui, mais pas au point de donner ma vie ». Vous imaginez si Jésus avait dit ça? On ne serait pas là ce matin. Si tel est notre cas, si les choses de Dieu ne nous intéressent pas plus que ça, et que nous sommes chrétiens, peut-être que remettre les bonnes priorités dans notre vie s'impose. Parce que connaître Dieu davantage, c'est quelque chose qui est éternel. Ça, je l'emporte après. Le reste, oui, c'est peut-être important, mais ça ne dure qu'un temps. Une voiture, maison, mes études, mon travail, je ne suis pas en train de dire qu'il faut balancer tout ça, mais mettre les bonnes priorités. Où est-ce que je vais m'investir d'abord et avant toute chose? Alors, par où commencer pour mieux connaître Dieu? Eh bien, le principe ne change pas. Il suffit encore de revenir aux pieds de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous ne le dirons jamais assez, je pense que votre pasteur l'a déjà dit plusieurs fois, un chrétien, c'est un disciple de Jésus. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui suit un maître, qui s'imprègne de sa vie, qui s'imprègne de son enseignement, de sa technique, de son exemple. Un chrétien est donc soit un bon disciple, ou malheureusement, il peut être aussi un mauvais disciple, un demi-disciple encore. Alors concrètement, qu'est-ce que suivre Jésus-Christ en tant que disciple? Eh bien, ça concerne trois domaines dans notre vie, trois domaines que Dieu désire travailler en nous par la puissance du Saint-Esprit avec notre participation. Parce que ce que j'aime bien aussi avec Dieu, c'est qu'il ne nous déresponsabilise pas. Dieu, c'est un gentleman. Il ne force personne. Si je ne veux pas suivre, il ne me forcera pas à suivre. Trois domaines. Je vais juste me contenter de les énumérer, de donner quelques mots sur ces trois domaines, et je laisserai votre pasteur le loisir d'en discuter plus tard, s'il le souhaite. Alors, premièrement, Dieu désire que notre foi soit fondée sur des choses solides. C'est dans ce sens que la Bible renferme les enseignements de Jésus-Christ, la doctrine des apôtres, l'histoire de Jésus et l'histoire du début de l'Église. J'insiste aussi sur le fait que la doctrine des apôtres. J'entends trop souvent des gens qui disent « il y a la Bible et il y a la doctrine ». Non, la doctrine, elle est contenue dans la Bible. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez toute l'Épître aux Romains, c'est extraordinaire, c'est de la doctrine. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des enseignements qui propagent des fausses doctrines. Mais il y a des enseignements, il y a des choses parfois qui sont plus compliquées à comprendre, mais le Seigneur nous les donne pour notre instruction. Dieu désire que nous sachions ces choses pour avoir l'assurance que notre foi ne repose pas sur des fables habilement construites et que notre foi aboutisse à des actes qui sont vrais, justes et bons. C'est très simple. Si je crois des choses qui sont justes, je serai poussé à mener une vie juste. Si je crois des bêtises, je serai poussé à vivre des bêtises. Un exemple, Adolf Hitler. Il était convaincu que les Juifs étaient un problème. Adolf Hitler était convaincu que le national-socialisme à la nazie était la solution pour le bonheur de l'humanité. C'était sa croyance. Il l'a vécu. Seconde guerre mondiale, la Shoah. Si je crois des bêtises, je serai poussé à vivre des bêtises. Si je crois des choses qui sont justes, ce serait poussé à vivre des choses qui sont justes. Deuxièmement, le Seigneur désire nous former en vue du service pour Dieu dans l'Église. C'est dans ce sens-là que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit et qui donne aussi les dons spirituels, parce qu'il y en a et parce qu'ils sont toujours actifs, et qui nous appelle à être ses témoins. Dans ce cadre, seul un chrétien qui comprend qu'il est un serviteur et qui agit en conséquence pourra être utilisé par Dieu de façon efficace et épanouissante. Un chrétien est un serviteur de Dieu. C'est triste à dire, mais dans notre époque, il faut le rappeler. Je ne sais pas comment ça se passe ici dans le Brabant Wallon, mais à Charleroi, nos églises évangéliques sont bombardées avec des théories sur le leadership. En gros, tout le monde est leader, donc je traduis en langage courant, tout le monde est un petit chef autoproclamé, alors que Christ se présente comme un serviteur. Et il appelle ses disciples à aller à sa suite. C'est « je me fais petit pour élever les autres ». Seul un chrétien qui comprend qu'il est un serviteur et qui agit en conséquence pourra être utilisé par Dieu de façon efficace et épanouissante. Pourquoi épanouissante ? Parce que quand Dieu nous appelle à son service, il nous donne toujours du sur-mesure. Ce qu'il nous demande de faire, il sait que dans ça, nous trouverons aussi notre bonheur. Dieu donne du sur-mesure. Troisièmement, et certainement le plus important, Jésus-Christ désire travailler notre caractère, notre cœur, qui je suis, comment je réagis, comment je vois le monde, comment je comprends ce qui m'arrive, comment je comprends les autres. Alors c'est certainement le terrain le plus difficile pour le Saint-Esprit, parce que nous sommes naturellement orgueilleux, nous sommes naturellement désobéissants, nous sommes naturellement peu disposés à faire confiance en Dieu. C'est quand même fort de faire confiance en quelqu'un qu'on ne voit pas de nos propres yeux, entre guillemets, d'une façon charnelle. Et pourtant, c'est quand nous nous imprégnons du caractère de Jésus-Christ que nous reflétons le plus Dieu autour de nous, que nous expérimentons Dieu, que nous le connaissons. Ainsi donc, apprendre à mieux connaître Dieu pour un chrétien, c'est travailler volontairement à son engagement de disciple, en approfondissant avec l'aide du Saint-Esprit ce que j'apprends de mon Dieu dans sa parole. Le Saint-Esprit peut m'aider à comprendre cette parole qu'il a inspirée. Le Saint-Esprit peut mettre sur ma route un pasteur, des anciens, des enseignants pour m'expliquer cette parole. Mais si moi je ne fais pas ma part, si je n'ouvre pas cette parole ou si je n'écoute pas, Dieu ne pourra pas faire plus. En perfectionnant ce que je fais pour Dieu dans l'Église, qui est son plan pour faire connaître l'Évangile. Le Saint-Esprit peut m'équiper, il peut donner des dons spirituels, il peut ouvrir des portes pour servir Dieu. Mais si je ne réponds pas à cet appel, il n'y aura rien qui se fera justement, il n'y aura rien qui se fera. La grande tentation pour nous qui sommes chrétiens, c'est de se dire « je ne me sens pas prêt ». J'ai envie d'être pleinement formé, j'ai envie d'avoir tout plein de connaissances avant de servir Dieu. C'est une bonne motivation, mais je tiens aussi à rappeler une chose, Jésus n'était pas prêt à mourir sur la croix. Dans le jardin de Gethsémané, il était effrayé. Il a dit « Père, si tu le veux, tu peux éloigner cette coupe de moi ». Moïse n'était pas prêt à aller à la tête du peuple d'Israël. Il a même dit à Dieu « Non, on renvoie quelqu'un d'autre ». Gédéon n'était pas prêt. Quand Dieu va l'appeler, Gédéon, il va dire « On va faire quelques signes pour être sûr ». Dieu n'attend pas des hommes qui soient prêts, il attend des hommes qui soient disponibles. Et dans ce cadre-là, le Saint-Esprit peut aider. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est un petit peu comme un parachute. Je ne sais pas si quelqu'un fait du saut en parachute, mais un parachute, jusqu'à preuve du contraire, ça s'ouvre quand on saute. Si je reste sur le sol et que je tire, ça ne fera pas de jolies photos. Je voudrais aussi insister sur ça, en perfectionnant ce que je fais pour Dieu dans l'Église locale. Aujourd'hui aussi, il faut le préciser. Pourquoi ? Le grand drame dans les églises, c'est que beaucoup de chrétiens ne s'engagent pas. Ça, c'est pénible pour nous qui sommes pasteurs. Et ce qui est beaucoup plus triste, c'est que quand ils s'engagent hors de l'église. Ça, c'est triste. J'ai discuté une fois avec un pasteur, il veut faire avancer les choses dans son église, mais les membres qui s'engagent ne sont pas là, ils sont ailleurs. Pourtant, quand on lit tout le Nouveau Testament, où est la priorité pour les apôtres ? Dans l'église locale. C'est mon église, c'est mon lieu, c'est ma famille, c'est là où Dieu m'a placé, je peux faire quelque chose. Troisième piste, en étant suffisamment humble, obéissant et confiant pour laisser Dieu remettre de l'ordre dans ma vie. Il y a un verset qui frappe, on dit que le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors souvent nous les chrétiens, on lit ce verset en disant c'est pour les non-chrétiens. Oui, c'est pour nous aussi. Le Saint-Esprit nous dira aussi quand ça cloche dans notre vie. Il nous rappellera la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ. Et quand ça arrive, c'est à nous d'être humbles et obéissants et confiants en Dieu pour remettre de l'ordre dans notre vie. En conclusion, connaître Dieu, c'est l'offre qu'il adresse à tout être humain. Connaître Dieu, c'est bien plus qu'une information, mais c'est la vie éternelle pour celui qui met sa foi en Jésus. qui se repent de ses péchés. Connaître Dieu, c'est aussi le programme de la vie chrétienne. C'est l'appel que Dieu nous lance à écouter sa parole, à nous mettre à son service et à chercher à lui ressembler. Car il n'y a que sur ce chemin, à la suite de Jésus, que l'on peut trouver Dieu, que l'on peut mieux le connaître. C'est l'exemple que nous ont laissé tous ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui ont été approuvés par Dieu. Et je terminerai par ces deux versets, ces deux premiers versets d'Hébreux 12. Si nous lisons tout Hébreux 11, c'est toute une liste des héros de la foi. Et une petite conclusion dans Hébreux 12 qui dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. »